Philippe Solers, la première fois que je vous ai rencontré, je devais avoir 13 ou 14 ans, c'était dans ma chambre que je vous ai rencontré. Je lisais à cette époque-là à peu près tout ce que je pouvais trouver et je cherchais en particulier tous les romans qui pouvaient m'apporter une lumière crue, si possible, sur les femmes. Et je lisais Sade jusqu'à Philip Roth, qui est donc dans votre bibliothèque, pour dire sur la couverture de l'édition américaine de votre livre Woman, Femme. Que si on veut passer du bon temps, on n'a qu'à lire Philippe Sollers. Je lisais Bukowski. Et je vous ai donc d'abord rencontré, sans doute comme nombre de lectrices et de lecteurs, à travers Femmes. Et c'était aussi l'époque où j'écrivais moi-même mes premiers textes, histoire de séduire les filles. J'ai la chance aujourd'hui d'être dans votre bureau, ici aux éditions Gallimard, face à vous, et donc je me permets cette question.
Fallait amener les filles.
Qu'est-ce qu'une femme, Philippe Solers?
Ah, une femme, ça dépend. D'abord, il faut revenir à ce mot merveilleux de Lacan, dont je suivais les séminaires avec passion, parce que j'ai jamais vu quelqu'un inventer sa pensée en parlant comme lui. C'est le plus beau théâtre que j'ai jamais vu de ma vie. C'était génial. C'était le mardi, voilà. Alors, Lacan, un jour, il avait des formules comme ça, très. La femme n'existe pas. Alors, j'étais en froid. Ou alors, il disait des choses comme Dieu est inconscient. Oui, que ça peut vouloir dire, oui. Ou alors, il n'y a pas de rapport sexuel. Ah, mais enfin, le rapport, au sens mathématique. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas des actes sexuels. Ou alors, il disait, ça, je trouve ça merveilleux pour aujourd'hui. Il n'y a rien à attendre du désespoir. Il n'y a rien à espérer du désespoir. Hein? Oui, ça va être très juste. Voilà. Les femmes, c'est une à une. Pas, il n'y en a pas une qui serait la grande une, la lune de toutes les unes. Non. C'est ce que j'essaye d'établir dans cette enquête très, 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 très précise. J'avais des notes sur pendant 10 ans, 15 ans. Puis tout à coup, j'ai décidé de faire le roman qui s'appelle « Femme » au pluriel, bien sûr. Donc, eh bien, ça dépend des situations. Ça peut être l'enfer, ça peut être un purgatoire, c'est rarement le paradis, mais ça arrive, et puis tout dépend des situations. C'est-à-dire de la façon dont on s'y prend, si on est un homme assez quand même porté sur l'hétérosexualité. Je demande pardon à tous les lecteurs, toutes les lectrices qui nous écoutent, enfin, les électeurs, parce que quand même, voilà. Bon, vous voyez, c'est un dinosaure qui vous parle.
Et vous dites par ailleurs que les vraies femmes, ça ne court pas les rues, et d'ailleurs les vrais hommes non plus. Mais alors une vraie femme?
Une vraie femme, il faut prendre des personnages. Et je peux, en effet, vous les décrire. Et pour ça, en effet, je peux avoir recours aux peintres qui s'y sont intéressés, qui en ont rencontré. Par exemple, Manet, qui de ce point de vue-là est un événement considérable, non pas de l'art moderne, comme on le dit sottement, mais de l'art tout court. Manet voulait faire Titien, vous comprenez, c'est-à-dire l'Olympia, eh ben évidemment là vous, c'est tout le monde. S'il y a une vraie femme, ça ne plaît pas à la société, voilà. Si elle est vraie, et donc c'est le contraire de la convention, c'est la liberté même. C'est assez rare, bien sûr, mais ça se rencontre.
Et on les rencontre. Dans vos romans, Philippe Solers?
Je crois. Moi, mon idée, c'était de faire une petite nouveauté technique, c'est-à-dire classer les éléments féminins, comme Mendeleïev, vous savez.
Le tableau périodique, voilà. Des éléments.
C'est ça. Voilà. Donc, il y a les ultra-négatives, il y a les négatives, il y a les plutôt négatives, il y a les plutôt positives, et il y a les tiens, étonnamment positives, et puis il y a les suprêmement positives. Tout ça, il faut classer, vous comprenez? Ça dépend des circonstances. Qui ne connaît pas le négatif ne connaît pas le positif. Voilà, c'est tout. Pour une femme aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un homme? Bah, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu les lettres du monarque Mitterrand à sa maîtresse cachée, plus ou moins, quand il a eu une fille.
Anne Pinjot,
oui, oui. Je vous assure, c'est très... Vous mettez sur la table deux livres. Le mien, Femme, qui intriguait beaucoup le monarque, qui m'avait invité à déjeuner parce qu'il avait senti qu'il y avait là quelque chose de bizarre. Et vous mettez ces lettres à lui, voilà, ce sont des lettres d'amour dans un style plutôt 19e, c'est-à-dire un notable de la République ayant une relation cachée, etc. Et alors, Madame Anne Pinjot, ça se vend beaucoup. Les femmes achètent le Mitterrand amoureux, vous savez. On le voit couché dans l'herbe, Non, c'est très amusant. C'est très amusant parce que ce livre a été publié précisément au moment où Mitterrand venait d'arriver au pouvoir, en 1983. Et vous lisez le fait que Madame Anne Pinjot a toujours prétendu, ce que je crois vrai, n'avoir connu qu'un seul homme dans sa vie, François Mitterrand. Elle n'a pas pu comparer quoi que ce soit avec quoi que ce soit. C'est ça qui est un peu pénible. La comparaison... Alors, évidemment, vous allez me dire, mais le libertinage implique qu'on ne soit pas fidèle du tout à quoi que ce soit. Pas du tout. Ça est parfaitement compatible. Du même pinceau, Titien vous peint une Vénus délectable, endormie, et puis une Assomption de la Vierge. J'ai vu des moines à la Fenice, à Venise, les moines en arrêt devant cette Vénus somptueuse. Ils étaient là, ils regardaient ça avec passion. Je me suis permis quand même de leur demander s'ils ne voyaient pas de contradiction entre leur ordre et cette splendide créature. Et alors, je les ai renvoyés à l'Assomption de la Vierge, qui est d'ailleurs d'un érotisme tout aussi puissant.
Mais parlons justement des premières femmes. Dans votre vie, vous dites « J'ai vécu avec des femmes brunes sur un sol de soie » à Bordeaux.
Ça, c'est le poème d'Hölderlin qui s'appelle « Andenken », voilà, que je reprends sans arrêt, qui est un hommage aux femmes de Bordeaux, les femmes brunes sur le sol de soie. Non, ça c'est le sujet du premier roman, Une cueille de solitude, c'est pour ça que j'ai été obligé de prendre un pseudonyme.
Parce que votre rencontre avec... Enfin, la rencontre d'un jeune homme avec Concha,
voilà,
une femme espagnole, une belle trentenaire qui s'occupe de la maison de ses parents.
Voilà. Elle avait choisi elle était anarchiste, elle avait passé la frontière, elle a trouvé comme couverture ce qu'on appelle aujourd'hui employé de maison. Hein, voilà. Et moi, j'avais 15 ans, quoi. Voilà. Ça s'est fait tout naturellement, avec beaucoup, beaucoup d'intensité et un art de la clandestinité que j'ai commencé à apprendre grâce à elle, d'une certaine façon. Mon professeur d'espagnol au lycée était très étonné que mon espagnol était devenu alors vraiment comme une seconde langue. Bueno, vamos a ver. Et donc, j'ai perdu un peu l'espagnol, parce qu'après, je suis passé à l'italien. Mais ça, c'est pas... Donc, c'était une merveilleuse personne, basque. Là, il faudrait faire l'apologie du peuple basque. Et avec ces très curieux rituels que je regardais avec beaucoup, on allait en vacances beaucoup à Saint-Jean-de-Luz, etc. Donc, la chistera, le fronton, cette espèce de d'osier, de renvoi, et puis surtout les merveilleuses danses, je ne sais plus si elles sont toujours en actualité, mais moi ce que j'ai vu c'est absolument délicieux, divin, c'est-à-dire la danse qui termine par la pointe du pied dans un verre. Je n'ai retrouvé cette sensation de grâce et de maîtrise acrobatique, et sur les femmes basques qui ont un caractère invraisemblables. Enfin, ce sont des, c'est le matriarcat, quoi. Hein. Les hommes se suivent, mais enfin, ils sont tenus très, très, très fermement.
Moi, j'y ai vu l'ombre, sans doute de façon trop évidente, de Radiguet. Et j'ai pensé à Ardelet, lourde, lente. Et j'ai découvert en préparant cette émission qu'en fait, Ardelet avait écrit bien après vous ses souvenirs de, d'enfants initiés par des femmes mûres, bien après votre curieuse solitude.
Le coup de la différence d'âge, que je recommande à tous les jeunes gens. Mais à l'époque, j'aime autant vous dire que c'était très, très, très mal vu. Ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme calomnieux, la cougar, etc., ou la femme plus âgée avec un garçon plus jeune, c'était mais beaucoup plus condamné encore que l'homosexualité, ou au même titre, très attention. Ça reste quelque chose de très, très mal vu. La société n'aime pas ça du tout. Ça perturbe les rapports mère-fils. C'est une approche incestueuse et évidente. Et vous voyez par exemple que Mitterrand avait 57 ans et il était parfaitement dans les clous, si je peux dire. Alors que pour se renseigner, il était aussi assez volage, comme on dit, voilà. Mais il y a là une expérience pour un garçon de cet âge-là, surtout s'il a tendance à se raconter des choses et à devenir poète, entre guillemets, oui, c'est ça, c'est quand même très important.
C'est-à-dire que, puisque vous faites le lien avec votre imagination à cette époque-là, Philippe Solers, à l'instar de ce que Dominique Horry, Pauline Réage, l'auteur d'Histoire d'eau, a pu dire au moment de la publication de votre Curieuse solitude, vous cherchiez à vous fabriquer des souvenirs dès l'âge de 15 ans avec, par exemple, cette femme de 30 ans.
C'était pas pour fabriquer des souvenirs, c'était pour vivre intensément une expérience. La vie est une expérience. On l'amène ou on ne l'amène pas. Ou alors on se fatigue et on rentre chez soi. La vie est une expérience. Si on est écrivain, alors d'autant plus. C'est-à-dire, évidemment, tout ça se dit. Le fait d'apprendre une autre langue que la sienne, au sens propre et au sens figuré, apprendre une autre langue que la sienne avec une partenaire, ça change tout. D'abord, vous avez l'argot de la langue de l'autre, qui vous prend tout à fait au dépourvu, et vous avez la crudité, la sexualité des mots dans l'autre langue. C'est comme un voyage très loin, quelque part, dans une autre contrée.
Vous gardez le souvenir d'un de ces mots crus de la langue espagnole ?
Oui, echad, éjacule.
Je profite qu'on évoque ces relations entre des jeunes gens et des femmes plus mûres et expérimentées pour vous demander de nous lire, si vous le voulez bien, un extrait d'Éclaircie.
Heureux les peu nombreux. Ça, c'est très, très amusant parce que c'est Happy Few. Hein, Happy Few.
C'est Stendhal.
Alors ça, oui, Happy Few, c'est devenu un mot constant chez Stendhal. Oui. Et ce qui est curieux, c'est que, vous voyez, l'exergue de Complot, le livre, là, on va retrouver quelqu'un que vous n'attendez pas du tout, qui va vous dire la même chose. Et voilà ce qu'il dit. La véritable pensée de l'histoire, avec un H majuscule, hein, la véritable pensée de l'histoire ne sera reconnaissable qu'au petit nombre. Voilà une proposition assez étrange. Vous savez qui c'est ? Heidegger, Martin Heidegger, ce penseur maudit, qui est exhumé et refusillé toutes les semaines. On se demande pourquoi une telle passion. Probablement parce qu'il doit avoir tendance à penser. Alors je reprends. Heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous des doigts de musiciennes. Manet. La femme de Manet était pianiste, comme vous savez, un peu plus âgée que lui. Et le soir, quand Manet rentrait de son atelier, il demandait à sa femme, Suzanne, hollandaise d'origine, de lui jouer du piano. Il avait d'ailleurs une passion particulière pour un musicien, Manet. C'est Haydn. Là, c'est très étrange parce qu'à l'époque, personne ne parle de Haydn. Tout le monde est parti dans Wagner. Lui, c'est le contraire. Il se promène sur les grands boulevards, il drague des filles qu'il emmène dans son atelier pour les peindre, et d'ailleurs, elles ne se sont jamais plaintes de quoi que ce soit. C'était un monsieur très courtois, très cultivé, très charmant, assez beau, très beau même. Et un jour, il suit une femme comme ça, et sa femme était derrière lui, il lui tape sur l'épaule. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, dit Manet, je croyais que c'était toi. Reprenons. Vous voyez. Alors, heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous des doigts de musiciennes ou de prostituées séduites. Ça, nous avons le camarade Picasso qui a son diplôme du bordel de la rue d'Avigno à Barcelone, les demoiselles d'Avigno, etc. Donc il a été à l'école très tôt, douce, avec des dispositions probablement exceptionnelles. Heureux ceux qui n'ont pas eu d'initiative à prendre et se sont laissés aller, adolescents, à des figures féminines sensualisées. Heureux les peintres et les écrivains qui ont séché la morose école et la barbante université pour enrichir leur connaissance dans le boudoir des pensées. Heureux ceux qui, plus tard, retrouvent l'éclaircie de leur sœur dans la dévastation générale. L'éclaircie de leur sœur dans la dévastation générale. Alors ça, oui, ça c'est d'abord, c'est un type qui a eu deux sœurs qui vous parle, deux sœurs plus âgées. Et d'autre part, c'est une allusion latérale au poème fameux de Baudelaire, « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, etc. » Donc, c'est très, très étonnant, « Mon enfant, ma sœur. » C'est très audacieux de dire ça.
Et à propos de vivre ensemble, Philippe Solers, vous avez eu une passion fixe, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, et
on n'a jamais vécu ensemble. Elle était là et moi là, ailleurs. Mais on se voyait très souvent. Oui. Bien sûr, ça c'est Dominique Rollin. On s'écrivait très souvent. C'était quelqu'un qui écrivait tout le temps. Hein. Donc on s'écrivait beaucoup. Il y aura un recueil de lettres qui va paraître en octobre prochain. Et il y a en tout, je sais pas, 10 000 ou 15 000 lettres. Donc ça va faire 2, 3, 4 volumes. Il y aura les miennes d'un côté et les siennes de l'autre. Pas mélangées, mais chacun. Donc ça sera alors tout un gros roman, je crois assez passionnant. Ça commence, j'ai 22 ans, elle en a 45, elle en paraît 10 de moins. Il se trouve que je sais écrire dès l'âge très tôt, quoi, quand même. Et qu'à ce moment-là, c'est un choc de deux écrivains qui s'écrivent. Donc c'est très singulier.
Mais alors, vous avez pu évoquer votre première rencontre avec Julia Kristeva en 1966. Elle avait $5 dans sa valise et était venue vous interviewer.
Oui, exactement. Elle me demande un rendez-vous, je me dis, voilà, une universitaire bulgare venant de l'Est. Elle avait profité de la politique de gaulliste à l'époque pour pouvoir s'exfiltrer d'un régime totalitaire vraiment très étouffant. Hein. Donc je me dis, bon, alors très bien, on va voir. Et je vois arriver une jeune femme, 25 ans. Et je m'attends à ce qu'elle me pose des trucs plan universitaires, voyez. Oh, mais c'était pas ça du tout. Elle avait lu beaucoup, elle était très au courant, et surtout elle apportait du nouveau, c'est-à-dire les formalistes russes, les travaux d'un type qui s'appelle Bartin, qui avait fait des tas. Elle était très très au courant. Elle était linguiste. Hein. Elle voulait faire de l'astrophysique. Sa sœur a fait le conservatoire de Moscou, c'est une bonne violoniste, enfin voilà. Des gens très doués pour les langues, je vous apprends rien. C'est-à-dire qu'elle peut vous parler un français absolument impeccable avec une toute petite nuance d'accent mélodieux, slave. Et la conversation s'est prolongée. Et puis elle s'est prolongée, quoi. Et puis c'est prolongé.
Tant et si bien, Philippe Soler, ce que vous avez écrit ensemble il y a quelques années, du mariage considéré comme un des beaux-arts.
Voilà.
Référence directe à Thomas de Quincey, où Thomas de Quincey parle du premier assassinat, parce que c'est l'assassinat de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, bien sûr, par ce fameux mangeur d'opium, où de Quincey écrit que le premier assassinat nous est familier à tous, en tant qu'inventeur de l'assassinat, et que le père de l'art, Cain, dut être un génie de premier ordre.
Oui.
Quelle relation il y a pour vous, pour avoir choisi ce titre, entre le mariage et l'assassinat ?
Eh ben, écoutez, en principe, le mariage, c'est quand même infernal. Hein, c'est la croix et la bannière. Il y a des gens qui se marient, tant mieux s'ils veulent se marier. Mais enfin, c'est pas forcément la chose à faire. En revanche, à partir du fait qu'on fait d'une formalité une fête continue, c'est amusant. Alors donc, il faut que ça se transforme en art, parce qu'il faut pas se brouiller, il faut pas tout ça réclame une diplomatie de tous les instants et donc une conversation et donc quelque chose comme une curiosité réciproque de ce que pense l'autre. Donc on a résolu ça, je crois, à la chinoise. C'est-à-dire que, comme vous savez, un homme et une femme ne font pas un. Elles ne font pas deux qui font un, mais sont automatiquement quatre. Hein? Mon masculin, c'est pas son masculin. Mon féminin, ce n'est pas son féminin. Et alors, il faut que quatre personnes puissent dialoguer. Il faut parler de quatre points de vue différents à la fois. Et comme ça, ça devient très, très musical, voyez-vous. C'est-à-dire, c'est intéressant.
Oui, vous dites que c'est étonnant, le mariage, et en l'occurrence, cette relation exceptionnelle que vous entretenez avec Julia Kresteva, la relation entre un homme et une femme. Mais il y a aussi quelque chose de dangereux, parce que je voudrais qu'on revienne, pour terminer cet entretien, sur ce qui ouvre votre roman « Femme ». Vos femmes au pluriel, le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire
à la mort, c'est la troisième proposition qui est importante, le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort, là-dessus, tout le monde ment. Ça, ce qui est intéressant, c'est la troisième proposition. La mort, puisqu'elle donne la vie à la mort. Ça va de soi. Avant d'inventer, je ne sais pas, l'utérus artificiel, mais qui sera la même chose. Peu importe. Elle donne la vie, donc c'est la mort immédiatement. On ne peut pas parler de la mort entre un homme et une femme. To be or not to be n'est pas une formule féminine. Ce serait absurde de vouloir l'imposer. Ça n'existe pas. Il y a deux points de vue complètement différents. C'est ce qu'on appelle la guerre des sexes, qui remonte à la plus haute antiquité. Je ne vais pas vous faire un dessin.
L'enlèvement des Sabines, on l'a déjà.
Oh oui, oh, bien pire. Bien pire, les Sabines étaient ravies peut-être. Non, ajoutez la chose principale, c'est que elle est psychanalyste.
Julia Kresteva.
Oui. Elle a de nombreux patients, patientes. Elle en entend de toutes les couleurs. Elle ne me parle jamais, bien entendu, déontologiquement. Sauf que ça la renseigne beaucoup sur ce qu'il y a au tréfonds de chaque personne qu'elle voit. Donc elle est très renseignée. Un psychanalyste doit se taire, bien sûr, ou intervenir peu souvent, mais de façon décisive. Voilà, je vous parlais de Lacan tout à l'heure, et évidemment, Lacan avait beaucoup d'affection pour elle. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi ? Mais je vais, vous allez voir, on va finir comme il faut. Il y a à peu près 6 mois, non ? Elle me dit un jour, oh, comme c'est curieux, j'ai de plus en plus de patientes et de patients qui se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser le texte qu'ils viennent de lire. Oh, je me dis, mais alors là, attention, je tends l'oreille. Et je trouve que c'est, comment, mais alors c'est très intéressant. On passe au numérique, etc., on passe à la communication. Vous avez envoyé combien de SMS par jour, de textos, etc., le vocabulaire réduit, tout. Attention, voilà, vous lisez un paragraphe, n'importe quel texte de la bibliothèque, pourquoi pas, pour voir. Mais vous vous rappelez pas ce que vous avez lu. Oh, c'est intéressant, parce que la mémoire n'est plus sollicitée. Si la mémoire, qui est un sport d'assez haut niveau, c'est un muscle, si la mémoire n'est pas entraînée, ce muscle devient de plus en plus flasque, par conséquent de plus en plus passif. À ce moment-là, vous êtes débordé par l'information instantanée constamment, par la communication. La communication n'est pas le langage dans sa plénitude, c'est autre chose, c'est ce que ça envoie. Vous regardez les personnes autour de vous, je ne vois de plus en plus de gens qui ne lèvent plus la tête, qui ne voient pas qu'il y a un arbre devant eux, devant elles, qui sont là constamment accrochés, la tête en bas.
Et quand on perd la mémoire, ça veut dire qu'on perd aussi la possibilité de la rencontre et de l'amour, puisqu'on était parti de là.
Absolument, vous devenez passif, manipulable, de plus en plus. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Donc, vous êtes de plus en plus passif, donc de plus en plus esclave. Il y a un texte de Voltaire magnifique qui s'appelle « De l'horrible danger de la lecture », où il s'amuse à dire qu'après tout, si vous avez un livre sacré, c'est pas la peine d'en lire un autre. Si vous avez le Coran, voulez-vous me dire pourquoi vous iriez lire Montaigne ? C'est un délinquant djihadiste taré, ça lui suffit d'avoir quelques slogans dans la tête. C'est arrivé à d'autres autrefois.